Bien, donc à nouveau, bonjour mesdames, messieurs. Cette séance, c'est la deuxième séance traditionnelle de début de saison qui présente les ateliers, ce que l'on appelle les activités complémentaires. Donc, je vais gérer la succession des présentations en fonction de la disponibilité des animateurs qui sont là ou qui ne sont pas là ou qui ont des contraintes diverses et variées. Et donc, on commence tout de suite. Alors, déjà, je pose une question. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent juste de s'inscrire à l'UTB ou qui vont s'inscrire à l'UTB qui sont dans la salle? Parce que c'est surtout pour eux qu'on fait ce type de présentation, bien sûr. Mais également pour les adhérents de plus longue date. Voilà. On le fait pour une autre raison également. On les appelle complémentaires, je le redis à cette occasion-là, c'est que initialement, l'UTB ne faisait que des conférences au moment de sa création. Et c'est en fait à la suite de demandes de divers adhérents qu'on a accepté, enfin mon prédécesseur a accepté de créer ces ateliers, ces groupes de travail et choses comme ça. Et donc ça s'est perpétué parce qu'il y avait un public particulier pour chacune de ces activités. Donc le grand principe, c'est que il y a deux types d'activités, des activités qui ne rassemblent que des adhérents de l'UTB, donc ça ne coûte rien, sauf des cotisations complémentaires comme la marche ou des choses comme ça, mais c'est marginal, et des activités qui demandent la présence d'un animateur, d'un professeur, qui, le cas typique, ce sont les langues. Et donc, évidemment, comme il faut rémunérer ces intervenants, eh bien, on demande une cotisation complémentaire. Voilà. Donc, on y va. Bien, donc c'est ce que je viens de vous dire. Donc voilà les activités complémentaires, un listing. Donc l'informatique, je reviendrai dans le détail sur chacun de ces thèmes. Les langues, donc on y reviendra. Atelier d'art plastique, c'est un atelier de dessin. Histoire de l'art, Mathieu Pinette. Alors Mathieu Pinette, vous connaissez tous Mathieu Pinette, ou ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est le propriétaire gérant du château de Germolles. Donc il doit venir à 45, donc il aura le privilège de passer le premier parce qu'il a une contrainte personnelle. L'œnologie, donc il y a une dame là qui est partie, où est, vous étiez là, voilà, qui représente la société Rob Grilla qui est à Givry, avec laquelle on travaille depuis plusieurs années. Un atelier d'écriture, donc Marie-Annick est là, non, elle viendra, j'espère. La dictée, Wikipédia, un atelier Wikipédia, je vous expliquerai ce que c'est. Le groupe lecture et le groupe littérature. Le groupe patrimoine écrit de Bourgogne, le groupe économie et géopolitique, le groupe éthique et société, l'activité de marche et les voyages culturels. Donc vous voyez que nous avons une vingtaine d'activités complémentaires au-delà des conférences. Maintenant que nous sommes dans les nouveaux locaux à rue Saint-Georges, si vous voulez, nous essayons d'utiliser au maximum les salles, puisqu'on a la chance d'avoir une salle de réunion supplémentaire par rapport à ce dont on disposait à l'espace des arts, et des salles qui sont plus vastes. Donc ça facilite d'une certaine manière la gestion des salles et des horaires. Sinon, on est obligé d'aller un petit peu ici ou là, à l'IUT, dans les lycées, et ce n'est pas toujours facile d'avoir la disponibilité des salles. Bon, alors, Mathieu n'est pas encore arrivé, donc je vais passer. Alors, je ne vais pas le faire dans le... Ben, on va donner la parole tout de suite à madame qui va nous parler de l'œnologie. Voilà. Voilà. Alors, je vous en prie, madame. Alors, ce que vous faites, vous parlez dans le micro, là. Attendez, je vais régler le volume.
Voilà. Merci. On m'entend ? Oui, c'est bon ? Oui. Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie Charrier. Donc je suis venue l'année dernière présenter également ce que nous faisons à Givry avec M. Strohel, donc à Rob Grenat. Donc nous sommes un caviste, hein, et puis nous faisons également des cours d'œnologie. Et donc depuis quelques années, on organise des sessions de dégustation pour l'UTB, donc avec des thèmes vraiment divers et variés. Donc cette année encore, on vous propose ces ateliers. Alors, donc ça se passera les jeudis matins de novembre 2017 à mars 2018. Donc ce sera toujours Place de l'Église à Givry, dans notre salle de dégustation. Ce sera de 10h à midi, ça durera environ 2h. Et donc le nombre de participants, c'est entre 10 à 15 personnes, voilà, pour qu'on soit bien pour parler œnologie. Donc le budget, j'en parle tout de suite comme ça c'est fait, donc ce sera 90€ par personne pour l'ensemble des sessions bien sûr. Donc ça comprend l'organisation, l'animation de la dégustation, la fourniture des vins, voilà. Alors, donc on a abordé déjà beaucoup de sujets avec Monsieur Strohel sur ces sessions-là. Donc cette année, on va faire un petit peu différemment, on a d'autres sujets très intéressants. Notamment, alors la première session, ce sera le monde du vin, ou les vins du monde. Donc voilà, on connaît pas mal les vins de France, mais on connaît moins ceux de l'étranger. Et notamment, alors, les vins australiens, les vins chiliens, les vins argentins, etc. Donc, on parlera des vignobles et des vins qui vont avec et des vignerons qui vont avec. Donc ça devrait être vraiment, vraiment sympa, les vins d'ailleurs. Ensuite, dans la deuxième session, on parlera des accords vins et mets. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez délicat, finalement, d'accorder le plat qu'on prépare avec un vin. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. Alors, à 10h du matin, ne vous inquiétez pas, on ne vous fera pas une tête de veau. Mais on fera quelques accords sympathiques, notamment avec du chocolat, je pense. On verra. Voilà, donc ça c'est nouveau, les accords mets-vins. On discutera de la manière de choisir un accord, avec des exemples pratiques. Et puis, la troisième session, on va revenir chez nous, en fait, puisqu'on parlera des vins de la côte chalonnaise. Parce que finalement, bon, on connaît un petit peu ce qu'il y a autour, mais est-ce qu'on connaît vraiment ce qu'on a chez nous ? Voilà, on fera un petit tour d'horizon des vins de la côte chalonnaise, blanc et rouge, bien sûr. Ensuite, la quatrième session, là, c'est intéressant, c'est sur le vieillissement des vins. Ça, c'est un thème qu'on n'avait pas abordé. Et pareil, question délicate. Comment un vin va vieillir, le rouge, le blanc, comment on peut voir l'évolution du vin, comment on peut prévoir aussi son évolution. Donc tout un tas de questions qui vont trouver, j'espère, certaines réponses avec cette session-là. Donc c'est pas évident de déguster un vin au mieux de sa forme, donc on verra tout ça. Et puis la dernière session, ça va être sympa parce que l'année dernière, enfin depuis plusieurs années, vous êtes des gens extrêmement curieux et vous posez beaucoup de questions. Et donc Monsieur Strohel a dit, ben voilà, cette année je voudrais que les gens s'investissent et me donnent le thème de la dernière session. Donc c'est vous qui choisirez en fonction des aspirations des sessions précédentes ou ce dont vous avez envie. C'est vous qui choisirez le thème de la dernière session. Donc voilà, ce sera organisé avec nous. Donc voilà, donc j'ai peut-être été un peu rapide, mais
non,
mais j'en ai fini.
C'est très bien.
Donc j'espère que vous.
Je voulais simplement ajouter quelque chose. Nous sommes, on le sait tous, dans un pays de vignes et de vins. Nous avons créé cet atelier il y a quelques années. On fait le groupe un petit peu avec difficulté. On est un petit peu déçus du fait qu'il n'y ait pas un public plus large pour ces choses-là. Je vais citer le cas de l'UTB de Sens, où il y a 10 cours d'œnologie et il y a 400 personnes à Sens qui suivent des cours d'œnologie. Alors, soit ils sont alcooliques, soit ils sont vraiment, disons, des amoureux immodérés des vins. Donc, il faut aussi que ça prenne sa place, si vous voulez, dans notre programmation, parce que c'est pas notre image de marque. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on fait ces présentations publiques, de telle manière que on puisse associer l'UTB à la dégustation et à la connaissance des vins. Donc, on vous le dit, vous êtes venus, c'est sympa de venir nous écouter, mais dites-le également autour de vous, il y a des trucs très intéressants, et tous les retours que nous avons des années précédentes de l'atelier chez Rob Guya sont tout à fait excellents. Moi, j'ai connu Monsieur Strohel parce que j'ai été dans un colloque, on va dire, il y a quelques années, où il fait beaucoup de choses pour, disons, des repas dégustation, si vous voulez. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance et là que la connexion s'est faite, si vous voulez. Voilà. Parce qu'on a fait ça la première année avec la Maison des Vins, mais c'est compliqué parce que c'est compliqué. La Maison des Vins, c'est compliqué. En particulier, la disponibilité de la salle. C'est, en plus, ils étaient en travaux. Donc, et là, la formule avec...
Là, nous, on est disponibles.
C'est très bien. Voilà. Et il y a de très bons vins à la Maison des Vins, je vous rassure tout de suite. Voilà. Bien, eh bien, merci beaucoup, madame.
Je vous en prie. Donc, on peut vous venez nombreux, merci.
On peut vous libérer. Et voilà, donc, venez ou parlez. Enfin, je rappelle que l'intérêt de ces, je le redis encore une fois, l'intérêt de ces présentations publiques, c'est que vous fassiez de la communication externe auprès de vos amis qui n'ont pas eu le loisir ou envie de venir passer une heure et demie à m'écouter, si vous voulez, ou à nous écouter. Voilà, merci. Bon, je vais donner la parole. Bien, alors, je vais changer l'ordre, donc on va passer à l'atelier éthique et société. Alors, je vais chercher.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors, comme chaque année, depuis bientôt 9 ans, voilà. Je vais vous parler du groupe Éthique et Société. Alors, ce groupe a été créé en 2008, pour ceux qui n'étaient pas là les années précédentes, avec Alain Perdreau. Dans ce groupe... j'ai mal mis. Dans ce groupe, tout se décide en collégialité et tout y est démocratique. Voilà. La convivialité est mise, tout comme la courtoisie. Chacun est invité à exprimer ses opinions et à les confronter à celles des autres. C'est un débat dans un but commun, la recherche d'une certaine connaissance sur le thème qui est choisi au mois de mai de chaque année par le groupe et décidé pour l'année qui vient. Les participants potentiels... ça serait tout au moins plus pratique qu'ils sachent utiliser Internet afin d'être accessibles par messagerie pour recevoir et envoyer différents documents concernant le fonctionnement du groupe sur le thème annuel. Ce qui est souhaitable également, c'est que chacun fasse un exposé par an lors de notre réunion mensuelle. Qui est exposée par la personne qui l'a rédigée au cours de notre réunion. Il s'agit d'un résumé d'un livre sur le thème choisi. La date de l'exposé est choisie par la personne qui le fait. Un plan de travail est établi en juin pour l'année avec les grandes lignes des exposés. L'exposé, donc le résultat espéré, est d'engendrer de la pensée qui animera le débat. Alors, le sujet pour 2017 et 2018 est éthique et démocratie et ses déclinaisons. Alors, ces déclinaisons, tout ce qui a été souhaité par le groupe, individualisme, système idéal, suffrage universel, évolution et avenir, populisme, individu et société. Alors, chacun là-dedans choisit ce qui l'intéresse de développer pour les autres. En fait, c'est un cadeau qu'on fait aux autres de développer le thème sur ses différentes déclinaisons. Ce groupe est gratuit. Il suffit de se présenter à la rentrée.
De s'inscrire. Alors j'en parlerai beaucoup à la fin.
De s'inscrire à l'UTB avant, bien sûr. Ouais. Mais pour le groupe, on se présente à la réunion du groupe 30 rue Saint-Georges, une fois qu'on a été inscrit à l'UTB, bien sûr.
Le fonctionnement du groupe vous est adressé, et après la connaissance de ce fonctionnement, si ça vous plaît, eh bien vous restez, sinon vous êtes libre à vous, bien sûr, de quitter. Vous pouvez, ce qui est souhaitable aussi, c'est que vous alliez sur le site de l'UTB pour tout savoir sur ce groupe. Alors, notre date de rentrée, c'est le lundi 9 octobre. Les réunions ont lieu de 16h30 à 18h30. 30 rue Saint-Georges, comme je viens de le dire. Alors, j'ai peut-être oublié des choses. Vous pouvez poser des questions.
Bon, alors, l'expérience montre. Alors, merci, Monique, d'avoir animé ce groupe déjà depuis quasiment 10 ans maintenant.
Oui.
Au début, nous étions 7 ou 8. Et maintenant,
nous sommes 19.
Et donc, la salle commence à être un peu juste. On va pas pousser les murs, mais donc il y a un intérêt et il n'y a pas tellement de départ, il y a beaucoup d'entrées. Ça prouve que ça, on y trouve son intérêt. Donc, si ça vous intéresse, et vous pourrez sur le site, il y a les textes et les thèmes qui ont été traités les années précédentes, donc ça peut vous donner une idée de ce qu'on y fait. Voilà. Donc merci Monique. Donc je te libère. Hein, tu as bien travaillé. Voilà. Alors, comme Mathieu Pinette n'apparaît toujours pas, donc on va traiter un autre thème. Je vois que Marie-Annick est arrivée. Battre le fer pendant qu'il est chaud. Voilà. Donc Marie-Annick, allez-y, prenez le micro et dites en quoi consiste l'atelier d'écriture.
Voilà, alors, comme son nom l'indique, les participants se réunissent autour d'un thème parce qu'ils ont envie d'écrire. Alors, le thème est décidé en début d'année d'une façon collégiale, et de même que la forme qui va être utilisée. Donc, on se dirige très très souvent vers la fiction, c'est-à-dire la nouvelle, le roman. Voilà, on écrit des histoires. Donc ça, c'est destiné aux gens qui ont envie d'exercer leur plume, d'exercer leur imaginaire, d'écrire des histoires, d'inventer. Donc on n'a pas besoin de compétences particulières. Chaque année on repart à nouveau frais, on redémarre d'une façon nouvelle, on commence quelque chose de nouveau, donc on peut très bien, c'est pas un train qu'on prend en marche. C'est un train chaque fois nouveau, chaque année nouveau. Et c'est à géométrie variable. Bien entendu, il ne faut pas être plus d'un certain nombre parce que sinon les échanges deviennent un peu compliqués. Mais il y a encore de la place.
La taille idéale, c'est 6 personnes.
6-8
personnes.
Oui,
et
on
là,
peut aller jusqu'à 10.
Il y a 5 à 6 personnes avaient participé au groupe les années précédentes. Voilà.
Oui, et qu'est-ce que je voulais rajouter?
Le feuilleton. Il faut parler du feuilleton.
Donc nous avons un rescapé de cet atelier qui a l'air un petit peu fatigué par ses nuits de veille sur l'écritoire, mais qui a l'air heureux quand même, voyez.
Merci. Donc je participe à cet atelier depuis 5 ans, je crois maintenant, et je voulais simplement vous rappeler les publications qui ont été faites par cet atelier successivement chaque année, puisqu'il y a 2 ans, il y a eu un recueil de nouvelles qui est paru grâce à l'UTB qui s'appelle Miroir. Donc c'est un recueil de nouvelles sur un thème commun, mais où chacun écrivait somme toute son propre texte, ou voire 2 textes, donc qui ont été publiés il y a 2 ans. Et puis l'année dernière, la démarche a été un petit peu différente, puisque c'est une autre publication qui a été faite d'un petit roman collectif qui s'appelle Un immeuble si tranquille. Alors là, c'est une écriture collective, c'est-à-dire que chacun des participants animait un des personnages du roman et reprenait la plume chaque fois que ce personnage arrivait dans l'histoire. Bon, en gros, c'est l'histoire d'un immeuble parisien à Montmartre qui a tendance à s'effondrer parce qu'il est au-dessus des carrières souterraines de Montmartre. Et c'est donc toute la vie de cet immeuble avec les relations entre les occupants des différents étages. Au départ, oui, il ne se passe encore rien. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'aventure, jusqu'au résultat final, que je ne vous dévoile pas, parce que vous pouvez aller chercher toujours ce livre au secrétariat de l'UTB pour le lire.
Le chercher et le payer.
Et le payer. Et puis l'année qui vient de s'écouler, donc nous avons fait un autre texte, enfin plusieurs autres textes collectifs. Bon, moi je parle de celui que je connais le mieux, celui auquel j'ai participé, qui s'appelle Le gars de la gare. Donc c'est un texte un petit peu policier, où c'est quelqu'un qui sort de prison après 20 ans quand même de réclusion. C'était un crime passionnel. Bon, et il retourne dans son pays d'origine, dans sa ville d'origine, et donc ben, il est confronté à un certain nombre de gens qu'il connaissait d'autrefois, et il découvre à cette occasion que son histoire n'était pas si claire qu'il le croyait lui-même, et qu'il y avait tout un complot qui l'a amené à devenir un criminel. Alors là, l'édition ne se fera pas, je crois, en édition papier comme les années précédentes, mais elle se fera, là je parle sous le contrôle de M. Fournier, sous forme de feuilleton qui sera sur le site de l'UTB, étape par étape, pour essayer de ménager un certain suspense.
Alors là, je reprends un petit peu, on reprend la tradition feuilletonesque et balzacienne du XIXe siècle, puisque vous savez que la notion de feuilleton a été liée au développement de la presse, et c'était le carburant qui permettait d'inciter le public à acheter le numéro suivant. Hein. Donc là, ça demande une certaine gymnastique d'écriture pour, appâter le lecteur. Donc le groupe serait d'accord, puisque c'est le groupe qui a fait cette proposition, serait d'accord pour faire ça, et donc on ferait un essai cette année. Donc alors par contre, ce serait réservé, l'accès à ces choses-là serait réservé aux gens qui manifestent un intérêt pour cette chose-là. Et donc cette année, pour lancer l'opération, on donnerait un accès gratuit à ces personnes, donc pour voir, mais ce ne sera pas accessible à la planète entière, malgré l'intérêt extraordinaire de l'écriture qui aurait été fournie.
Vous ne dormirez plus jusqu'à l'épisode suivant.
Donc, un des objectifs de ce système, c'est d'identifier, au-delà des gens qui s'inscrivent à l'atelier, d'identifier des gens qui sont intéressés par cette démarche, en disant, non seulement je veux lire, mais éventuellement, je suis dans une logique, parce que quand on dit « je veux écrire », ça demande d'abord un effort, et deuxièmement, il peut y avoir des freins du type timidité, c'est-à-dire en disant « je ne vais pas être à la hauteur, je vais être à côté de personnes qui sont plus douées que moi, etc. etc. » Donc on veut avoir un deuxième rideau, si vous voulez, de personnes qui sont intéressées par ce type d'activité. Donc c'est un essai. Hein, c'est pas très difficile à faire. C'est plutôt le groupe qui aura la difficulté pour voir si on sait faire ce système de relance perpétuelle du feuilleton. On va ressusciter Balzac. Et voilà. Donc, encore une fois, c'est pour que l'investissement personnel des gens se manifeste. Alors, soit c'est les gens extravertis et qui n'ont pas de problème relationnel, et donc ils sont en groupe de travail, et ceux qui sont un peu plus timides, bon, ben, peuvent peut-être participer ponctuellement. Et justement, si on fait des feuilletons par thème, c'est-à-dire avoir plusieurs projets qui se déroulent en parallèle, il peut y avoir des personnes à l'extérieur qui ponctuellement essayent de se raccrocher au wagon. Donc tout ça, c'est très... c'est tout à fait c'est un projet, donc on verra comment ça se passe. Si ça marche bien, alors d'aucuns diront « je le reconnais bien là comme ça », on demandera une petite cotisation particulière pour l'année suivante, disons qu'on a fixé à 5 euros pour avoir accès à ce feuilleton, c'est-à-dire le feuilleton de l'UTB. Les feuilletons de l'UTB seront accessibles pour 5 euros.
Voilà, donc ça c'était le point de vue des lecteurs qui pourront suivre le feuilleton. Alors je rajoute une ou deux petites choses par rapport à l'atelier d'écriture proprement dit. Là aussi, par rapport à l'écriture elle-même, il y a des choix différents. L'année passée, il y a trois personnes ont travaillé ensemble sur une même fiction, deux autres ont travaillé sur une autre fiction, et une personne a écrit toute seule. Donc vous voyez qu'on peut choisir différents modèles. Et puis par ailleurs, eh bien, ce qui est intéressant dans l'atelier d'écriture, c'est le partage, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul pour écrire, on échange avec les autres, on reparle des textes. Quand on a une panne, on en parle avec les autres. Chacun est amené à donner des conseils, à poser des questions sur son texte, etc. Et c'est ça qui donne vraiment la dimension intéressante et qui permet aussi d'évoluer. Et puis on s'amuse bien, quoi. Il faut bien le dire, c'est vraiment très, très sympathique. Voilà, je crois que j'ai à peu près.
Merci Marie-Annick. Et donc on remercie Marie-Annick de s'investir dans cet atelier. Alors, le châtelain est arrivé, donc on lui donne la parole. Mathieu Pinette. Alors, je cherche, voilà, la planche, voilà.
Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, cette année, donc, j'animerai pour ma part trois ateliers d'histoire de l'art. Des ateliers dont les thèmes ont été choisis, il faut le préciser largement, avec les participants aux ateliers de l'an passé, puisque nous paraissait assez légitime, après tout, que ceux qui étaient présents lors des ateliers disent un peu leur désidératé. Donc les trois sujets ont été choisis en particulier à partir de cela. Je voudrais aussi préciser, parce que ça me paraît très important, que ces ateliers d'histoire de l'art sont absolument pas des ateliers pour des, entre guillemets, spécialistes. C'est même exactement l'inverse. Vous allez voir, cette année, il y a des ateliers sur des sujets relativement précis, la sculpture antique, la peinture espagnole, etc. On pourrait se dire, oh là là, moi, la peinture espagnole, je n'y connais rien. Eh bien, tant mieux, c'est pas du tout fait, ces ateliers, pour des gens qui connaissent le sujet. Et même surtout pas. C'est-à-dire, ceux qui connaissent bien la peinture espagnole, je tiens à le dire, surtout ne venez pas. C'est vraiment ceux qui doivent, sinon tout apprendre, du moins y voir plus clair dans ces domaines, à qui sont destinés ces ateliers. Le but, c'est vraiment, quand on y connaît peu de choses, ou pas grand-chose, ou rien du tout, qu'il faut venir dans ces ateliers pour y participer. La manière dont sont conduits ces ateliers est assez simple. Il s'agit de partir d'une œuvre ou de plusieurs œuvres autour desquelles nous discutons. Alors certains d'entre vous qui y vont régulièrement connaissent bien la manière dont tout ça s'organise. C'est assez amusant et sympathique aussi, comme les ateliers d'écriture, je crois. Et donc nous débroussaillons autour des œuvres qui sont proposées via des diapositives.
J'ai un exemple de ce que vous faites. Pour donner une idée de la façon dont ça se passe. Donc
voilà, là il s'agissait d'un atelier l'année dernière autour la peinture dans un certain nombre d'écoles qui ne sont pas parmi les plus connues, la peinture occidentale. Là, si je ne m'abuse, c'était un atelier sur la peinture anglaise. Alors voilà, on passe des vues, n'est-ce pas? Et il s'agit autour de ça d'essayer de comprendre, à la fois de comprendre quel est le sujet, d'essayer également de voir quelles sont les caractéristiques stylistiques essentielles des œuvres, de décrypter également la question des auteurs, de la chronologie, enfin bref, on regarde tout cela un peu dans tous les sens, et ça permet, je pense, de labourer des terrains que l'on connaît mal ou pas du tout. Et vraiment, j'insiste là-dessus, il ne faut pas se dire qu'on ne va pas dans un atelier parce qu'on ne connaît pas le sujet. C'est exactement l'inverse. Si on ne le connaît pas, c'est là qu'il faut venir. Ou si on le connaît mal ou si on le connaît peu. Il y aura trois thèmes dans les ateliers d'histoire de l'art cette année. Le premier est consacré à la sculpture antique. L'idée va être, à partir de 5 œuvres, puisqu'il y a dans chaque cycle 5 séances, à partir de 5 œuvres, parfois d'ailleurs célèbres, hein, de la sculpture antique, quelquefois pas célèbres du tout, d'essayer de les comprendre, de voir là aussi ce qu'elles représentent, ce qu'elles veulent dire, mais aussi d'essayer de retravailler le contexte dans lequel ces œuvres se placent. Bref, de décrypter ce que ces œuvres ont à nous dire. Alors, si vous vous intéressez à la sculpture antique, car on travaillera d'ailleurs essentiellement sur la sculpture antique occidentale, en gros gréco-romaine, mais pas tout à fait que gréco-romaine, mais je ne vous livre pas non plus les clés de ce royaume des ateliers. Hein. Mais si vous vous intéressez à cela, ou si vous vous intéressez un peu à ça sans y connaître rien du tout, eh bien cet atelier est précisément pour vous, pour essayer d'un peu comprendre ce que c'est que la Vénus de Milo, par exemple la Victoire de Samothrace, ou bien des œuvres que vous ignorez, qui existent pourtant, et qu'il est, je crois, intéressant de connaître. Il y aura un deuxième atelier sur la peinture espagnole. La peinture espagnole, c'est un petit peu comme la peinture anglaise dont il était question il y a quelques instants, n'est pas forcément le domaine le plus connu de la peinture occidentale. Alors bien sûr, on connaît toujours tous les mêmes peintres, hein, Greco, Velázquez, Zurbarán, Goya, ça va. On assure tous, n'est-ce pas, dans ce domaine. Hein. En revanche, il y a beaucoup d'autres artistes que quelquefois on connaît beaucoup moins bien et qu'il est peut-être intéressant de mieux connaître. Et puis il y a un certain nombre d'invariants dans la peinture espagnole, une sorte de style entre guillemets espagnol que nous essaierons peut-être de définir. On fera d'ailleurs quelques incursions du côté du Portugal, voilà aussi une école picturale très très méconnue en France. Qui connaît la peinture portugaise, hein, je ne suis pas sûr qu'on soit très, très ouvert de ce côté-là, eh bien, c'est ce qu'on essaiera également de faire dans ces ateliers, certes de s'intéresser aux grands artistes très célèbres de cette école ibérique, dirons-nous, que nous connaissons tous, mais également d'explorer des domaines bien moins connus, mais que nous essaierons de travailler dans ces séances. Un troisième et dernier atelier, toujours de 5 séances, est prévu cette fois sur l'architecture. Et là, c'est vraiment le même type d'idée, hein. C'est-à-dire qu'on partira de 5 grands exemples de l'architecture occidentale pour essayer de comprendre, aussi bien dans l'Antiquité qu'au Moyen-Âge ou dans des époques plus tardives, voire quasi contemporaines. On essaiera donc de comprendre quelle a pu être l'évolution de l'architecture en Occident, hein, mais également d'acquérir un vocabulaire, parce que voir un monument, c'est bien, mais le comprendre en appelant un chat à chat, une colonne ou un métope, c'est quand même mieux que de voir des pierres auxquelles on est incapable de donner les noms qui pourtant s'y réfèrent. Donc ces ateliers d'architecture vont nous permettre d'acquérir un vocabulaire et de comprendre comment fonctionnent ces monuments sur un plan esthétique, parfois également technique, plastique, et puis de voir quelles sont les grandes règles qui ont régi l'architecture en Europe, en particulier, pas que en Europe, mais enfin, disons, dans le domaine occidental, entre l'Antiquité et la période contemporaine. Voilà donc ce que je voulais dire, grosso modo, sur ces séances, qui, encore une fois, sont des séances très interactives, hein, où il y a en général une quarantaine, 45aine de participants, hein, qui ont lieu au lycée Émile Angotet. C'est un lycée.
Juste à côté.
Hein, juste à côté, de l'autre côté de la place. Et qui permettent décidément de bons moments de discussion et d'échange autour de ces œuvres. Voilà.
Merci beaucoup. Préciser. Merci beaucoup. Donc je rajoute simplement. Oui, merci. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de succès. Donc engagez-vous. Ça coûte pas cher et c'est très intéressant. J'y suis même allé. Sans payer, pour me rendre compte, et c'était très intéressant. Alors, je rappelle, on a la chance d'avoir Madame Mona qui est dans la salle, là, qui est une fidèle des fidèles depuis le début, et qui récupère les supports visuels de Mathieu Pinette, et qui fait un enregistrement de son commentaire, des échanges qui ont lieu pendant l'atelier, puisque c'est, il faut le redire, c'est effectivement un échange, c'est pas un... C'est pas un cours.
C'est pas un cours.
C'est une animation. Et donc, Mathieu sollicite beaucoup le public pour dire, alors ça, vous, est-ce que c'est plus avant ou après, ou qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Donc c'est tout à fait stimulant, si vous voulez. Donc ces documents sont sur le site internet. Donc vous pouvez vous rendre compte, là j'ai pris un exemple que je voulais vous montrer, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller les consulter sur internet grâce à la gentillesse de Madame Monin qui récupère ces éléments. Voilà, merci. Des questions? C'est interactif là aussi, hein. Là on a l'impression de faire un cours sur la montagne, mais c'est pas défendu de poser des questions, hein.
Alors, ça, je vous répondrai pas, parce que justement, voilà, ça fait partie.
Voilà. Donc,
ça
fait partie inscrivez-vous et vous le saurez. Voilà.
Oui. Voilà. Oui, ça fait partie de l'effet de surprise. C'est-à-dire que l'idée est aussi de ne pas dévoiler avant ce que l'on fait pendant.
C'est exactement comme les feuilletons. Il faut, voilà.
Hein. Donc, il y aura de l'architecture religieuse, mais pas que. Voilà, tout autour de choses. Et de toute façon, si de temps en temps on part d'une œuvre ou d'un monument, par exemple, rien n'empêchera, et même en général, on ne s'en prive pas, d'essayer de regarder tout autour et de comprendre le contexte. Après tout, une œuvre vaut aussi par le contexte qu'il y a tout autour. Donc, même si un monument ou une œuvre est le pivot d'une séance, on saura explorer tout autour la période ou le territoire qui sert finalement de référence à l'œuvre en question.
Bien, merci beaucoup.
L'effet de surprise fait partie de cette affaire et peut-être du plaisir un peu excitant qu'on essaie de mettre en place dans ces séances.
Bien, merci beaucoup. Donc vous êtes libérés. Et vous pouvez vaquer à vos occupations qui sont très prenantes, on le sait. Voilà. J'en profite, puisqu'il est passé, que nous venons d'éditer un ouvrage en coédition entre le château et nous-mêmes, qui s'appelle « Les seigneurs de Germolles », qui est l'ouvrage et qui est un travail extraordinaire d'un auteur qu'on a découvert, hein, qui s'appelle Julien Montchanin, et qui a fait 10 ans de travail et c'est sorti de l'imprimerie il y a 2 jours, hein, c'est-à-dire jeudi dernier. On l'a présenté aux Journées du Patrimoine. J'en ai pas vendu, moi. Il en a vendu un. Alors, il y aura une présentation publique de cet ouvrage le 6 novembre par l'auteur, ici, avec une qui refera la conférence qu'il avait déjà faite au château, pour ceux qui y étaient déjà allés. Voilà. Qui résume un petit peu l'étendue de ce qui se raconte dans ce livre. Voilà, merci. Bien, alors, on va peut-être attaquer les langues. Attaquer, c'est un mot qui est peut-être inadapté, mais enfin, parler des langues. Alors, je voulais faire une introduction un petit peu globale. Voilà les langues que nous proposons depuis déjà plus de 10 ans. On les a mis par ordre alphabétique, hein. Il n'y a pas d'ordre de préséance. Alors, on a perçu depuis 1 ou 2 ans qu'il y a d'une part des demandes ponctuelles de telle ou telle personne, et il y a un problème, si vous voulez, d'entrer dans les ateliers de langue. Pourquoi ? Ben parce que même les ateliers dits faux débutants ou vraiment élémentaires, s'ils sont constitués pour la plupart de gens qui sont là depuis plusieurs années, le niveau moyen, même s'il est d'un niveau élémentaire, il est considéré comme inaccessible par une personne qui est vraiment complètement débutante ou qui n'en a jamais fait depuis le collège ou le lycée, et les gens ont peur de rentrer dans le système parce que la différence de niveau est trop importante. Donc on propose cette année un nouveau système qui permet de faire un essai payant, hein, mais pas trop cher, donc à 50 euros, 4 ou 5 séances, ça dépend des langues, pour voir. Parce que effectivement, comme les tarifs habituels pour un cycle complet, c'est de l'ordre de 180 ou 200 euros, je comprends qu'il y ait une certaine réticence de certaines personnes en disant moi, si je suis pas au niveau, je ne veux pas investir 200 euros dès le départ pour dire, mais au bout de 3 séances, j'abandonne parce que je n'arrive pas à suivre la cadence, si vous voulez. Donc, on essaye ce système pour pouvoir attirer, d'abord, pouvoir le faire avec un nombre de personnes plus réduit et attirer des nouveaux entrants. On le fait, c'est pas, on n'a pas rêvé ça la nuit, tout simplement parce qu'on a plusieurs personnes dans plusieurs langues qui nous ont dit, bah oui, mais moi, je voudrais bien faire ça, de l'anglais débutant, de l'allemand débutant, mais j'ai peur de rentrer parce que je vais aller dans un groupe déjà existant et je vais pas réussir à suivre le mouvement. Voilà. Donc, alors, ça peut vous intéresser pour ceux qui sont là, mais de la même façon, comme je l'ai dit au début, parlez-en beaucoup autour de vous, c'est nouveau. Donc, l'expérience nous montre que tout ce qui est nouveau met du temps à passer dans le public. Donc, faites-en de la publicité à l'extérieur. Et puis, évidemment, si ça marche, eh bien, on essaiera de se raccrocher à des wagons et de continuer. Et on ne va pas s'arrêter à 4 séances et donc, on continuera le mouvement. Voilà. Alors, je reviens sur les ateliers. Alors, on va le faire dans l'ordre où ça vient. Bon, alors, Michael, please, do it. Let's go.
Alors, bonjour. Comme l'a dit M. Fournier, ces années récentes, nous avons eu un bon nombre de ce qu'on appelait faux débutants. Je pense que maintenant on va changer ce titre, on va dire intermédiaire.
Voilà.
Mais on voudrait vraiment attirer les gens qui pensent que le niveau de l'anglais est vraiment basique et qui voudraient l'améliorer un peu. Donc si c'est le cas pour vous, pensez à venir. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans la même situation, qui voudrait apprendre un peu d'anglais, mais est un peu timide parce que son niveau n'est pas très grand, il faut avoir confiance, il faut venir tester ses cours. Donc, pour en général, je dois vous dire que les cours d'anglais ne ressemblent pas du tout aux cours du lycée ou du collège.
Ce n'est pas comme ça du tout. Nous.
Ce n'est pas un voyage dans la grammaire anglaise. On essaie plutôt de combiner une connaissance de la langue avec une connaissance de la culture anglophone, non seulement britannique, mais aussi américaine, australienne, irlandaise,
anglo-saxonne.
Pardon?
Anglo-saxonne.
Anglo-saxon, peut-être, mais ça serait irritant pour quelques Irlandais. Oui, et donc, on utilise, par exemple, des articles dans les magazines et dans les journaux que nous lisons, et nous essayons de comprendre non seulement les idées, mais aussi des expressions, peut-être de le nouveau vocabulaire qui entre dans la langue chaque année. Aussi, puisque je peux capter la télévision britannique chez moi par parabole, je fais des vidéos. J'enregistre des vidéos et nous les utilisons. Par exemple, nous, un programme sur la nature, et on regarde peut-être 10 minutes, et puis je pose des questions pour savoir combien les étudiants ont compris, et puis on coupe en petits morceaux ces 10 minutes pour regarder plus en détail le vocabulaire, les expressions, les idées. J'essaie toujours d'avoir une conversation avec les étudiants. Je pose des questions et je veux qu'ils posent des questions aussi. Et parfois, j'ai eu des questions très intéressantes auxquelles je ne sais pas la réponse. Mais on procède comme ça. Donc, par exemple, un cours typique commencerait avec une conversation sur les événements de la semaine. Et donc, on essaie peut-être les événements politiques ou sportifs ou quelque chose comme ça. Puis, on se concentre sur juste un aspect de la grammaire ou du vocabulaire, peut-être avec un petit exercice. Puis, on lit un article d'un magazine, d'un journal, et on discute des sujets. Et puis, on finit normalement en regardant une vidéo que j'aurais enregistrée de la télévision britannique. Mais ce n'est pas forcément un programme britannique, ça pourrait être un programme américain, australien, etc. Et donc, on procède comme ça. Et je crois que ça c'est tout. En général, j'aime beaucoup donner ces cours. Je les trouve très intéressants et je crois que c'est la même chose pour mes étudiants parce qu'ils sont revenus.
Bien, alors, merci, Michael.
Il y a des questions? Oui. Oui, ça c'est vraiment la différence entre ce qu'on a appelé les faux débutants. Avec les faux débutants, on présume maintenant qu'ils ont un niveau suffisant de la grammaire, mais pas vraiment élevé, mais qu'ils savent les pronoms. Ils savent I, you, he, go, goes, went, etc., les choses comme ça. Par contre, avec les vrais débutants, on ne suppose rien, on ne présume rien. On va commencer avec les vrais débutants, vraiment table rase. Donc ça c'est la différence. Et comme l'a expliqué M. Fournier, ça a été peut-être à cause un peu de timidité, parce que les gens pensent, oh, ces étudiants sont vraiment avancés, je ne pourrais pas m'intégrer avec eux. Mais non, il y a vraiment un grand éventail de niveaux, même dans les faux débutants. Et on essaie de trouver quelque chose qui conviendra à tout le monde.
Voilà. Oui. Il y aura trois niveaux, en fait. Un complètement débutant, un intermédiaire et un évolué, on va dire. Enfin, on ne sait plus quel qualificatif donner, mais enfin quelque chose qui est plus élevé.
Par exemple, l'année dernière, nous avions deux groupes de faux débutants intermédiaires, mais pas vraiment de différence entre les deux. Ce n'était pas le cas d'un groupe était plus avancé que l'autre. C'était mixte.
Bien, merci. On avance, hein. Donc, monsieur Pagnon, un petit mot à toute vitesse.
Oui, bonjour. Donc, juste un petit mot pour la conversation anglaise que j'ai le plaisir d'animer depuis déjà quelques années. En fait, ça n'est pas un cours, mais de la conversation, les sujets sont pas fixés à l'avance. En général, on commence par discuter d'un peu de tout, et puis on va développer sur des sujets d'actualité. Et donc, les niveaux des gens sont variés. Il y a des gens qui sont venus l'année dernière après avoir pris les cours de Michael avant pour compléter, pour essayer de. Donc, c'est en toute convivialité tous les mercredis. Pour l'instant, nous sommes l'année dernière, il y avait 25 inscrits. On est rarement 25 à chaque fois, mais parce que bon, tout le monde a ses activités diverses et variées. Et si on est trop nombreux, on a la chance d'avoir une grande salle. On peut, à la limite, se partager en deux groupes, parce que sinon, les gens qui sont un petit peu faibles, on va dire, ou qui se sentent faibles, vont avoir du mal à parler face à des gens qui pratiquent fortement. Et donc on a eu la chance l'année dernière de récupérer une native anglaise, nouvelle, qui est venue nous rejoindre. Par contre, on en a perdu deux autres qui sont repartis avec le Brexit.
Alors là, donc, on vient de découvrir un couple de Sud-Africains.
Donc, je crois que voilà.
Qui, et en particulier la dame, elle s'est même inscrite à l'UTB, qui est extrêmement motivée pour participer à ces ateliers de conversation.
Voilà. Donc, on l'accueillera avec plaisir le 4 octobre. Ça se passe à l'IUT. Il n'y a pas trop de problèmes de parking. C'est gratuit à partir du moment où on est inscrit à l'UTB.
Voilà. Bien, merci. Merci. Alors, Nicole, allemand. Tu prends le micro.
Hein, ouais. Je peux trop parler là-dedans, mais
bon,
ça va aller.
Oui, oui. Parle bien dedans.
Voilà, donc je vais vous présenter l'allemand. Donc j'ai moi aussi le plaisir d'animer depuis un certain temps, on va dire. Donc l'an dernier, nous avions deux groupes. Un groupe intermédiaire, même on va dire avancé. Un groupe fort, courageux, sympathique, qui parlait déjà couramment, hein, mais qui sait aussi accueillir les élèves nouveaux. Donc, n'ayez pas peur, si vous êtes déjà relativement bon, que vous voulez parfaire, vous voulez vous perfectionner, ce groupe est vraiment fait pour vous, parce que c'est un groupe qui accueille, on travaille vraiment avec gentillesse, avec respect. On a quand même un livre, on a quand même une méthode, parce qu'autrement, à nouveau, on serait un peu perdu. Donc, on a une méthode sur laquelle on s'appuie, un livre de cours, un livre aussi de travaux, enfin d'activités qu'on peut faire tout seul à la maison. Donc voilà, ce groupe, j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à le faire, hein, depuis un certain temps. Et alors on avait aussi un groupe, donc faux débutant l'an dernier, mais je dois vous dire que ce groupe faux débutant, j'avais un peu de mal à le faire vivre. Parce que tout ce qu'a dit M. Fournier est bien vrai. Les gens arrivent, ils sont de niveaux différents. Bon, on est français, donc on a un peu de mal à parler, on a peur de faire des erreurs, même quand on est inscrit d'ailleurs. Hein. Et donc, tout ça, ça fait que les gens se découragent des fois un petit peu, hein, ou n'osent pas s'inscrire. Ou voilà, en disant, oh là là, ils vont être bons, ils vont être meilleurs que moi, je vais être ridicule. Tout ça, moi, j'étais prof. Avant, je pensais que c'était fini, mais c'est pas vrai, ça continue. Hein, ça recommence, c'est toujours d'actualité, si j'ose dire, hein, particulièrement en langue vivante. Et pourtant, en langue parlée, c'est vraiment la base des bases. C'est comme ça qu'on progresse, même si on fait plein d'erreurs. On tombe, on se relève, voilà, on fait des bêtises, on en dit. Et puis finalement, ça marche. On arrive un peu à comprendre quelque chose et puis surtout à parler peu à peu. Voilà. Hein. Donc, moi, je suis bien contente, éventuellement, qu'il y ait un groupe de dits vrais débutants, parce que ces gens-là donc vont pouvoir commencer tranquillement. Hein, donc, sans crainte, si j'ose dire, découvrir une langue. Vous savez, une langue, je crois que c'est une aventure, moi. Hein, j'aime toujours ça, après tout ce temps. Mais la découvrir, c'est une vraie aventure. S'y remettre, la parler, c'est vraiment intéressant. Hein, donc, si vous voulez faire l'aventure avec moi, ben, ma foi, je vous attends.
Voilà,
hein.
Alors, c'est pour voilà. Ça qu'on vous, c'est pour ça qu'on demande au professeur de venir. Vous voyez, elle est gentille, elle est aimable, et donc elle ne dispute pas les gens, et donc vous pouvez venir faire de l'allemand si vous n'en avez jamais fait. Voilà.
Voilà.
Voilà. Bon, on va un petit peu. Merci, Nicole.
Je vais dire un dernier petit truc, c'est que on est accueilli au lycée de la Colombière, il n'y a pas de problème de parking. Le lycée a un parking privé, donc on peut mettre sa voiture à l'intérieur du parking privé du lycée. Ça, c'est parfois précieux aussi. Voilà. Merci à vous. Hein.
Monsieur Romero. Ah, il va dire la même chose que les autres. Hein. Ah, lui aussi, il est gentil, vous voyez. Il n'est pas agressif. Et donc, il accepte des gens qui n'ont jamais parlé un mot d'espagnol. Voilà.
Je ne les mordrai même pas. Hein? Messieurs, dames, bonjour. Alors, comme disait ma chère collègue, Nicole, la prise de parole est vraiment ce qui est le plus, enfin, ce qui est fondamental dans l'apprentissage d'une langue, et il faut se lancer à parler. C'est l'obstacle principal, hein. Depuis la scolarité, on traîne ça, pas tout le monde, mais quand même la grande majorité des gens. Alors, nous éloignons, comme disait mon collègue d'anglais, nous éloignons du système scolaire, de la méthode scolaire. Nous faisons quelque chose de beaucoup plus, disons, ludique, de plus convivial, de plus posé, quelque chose aussi de plus organisé, parce que les groupes, automatiquement étant plus petits, nous pouvons le faire. Et les débutants avec qui j'ai commencé l'année dernière, parce que bon, moi je suis assez nouveau à l'UTB, commencent, je pense, à avoir des réflexes de communication qu'ils n'espéraient pas avoir. Voilà.
Donc les débutants de l'année dernière sont devenus des faux débutants cette année, voilà, et ont monté d'un étage, voilà.
Voilà, alors voyez, au bout
d'un an... Et ils ont envie de revenir, donc vous voyez, ça prouve qu'il est gentil et qu'il est bon, hein. Voilà.
Voilà, les cours sont évidemment axés sur des savoirs pratiques, parce que le tourisme en Espagne, forcément, peut concerner tout le monde, donc... il s'agit de pouvoir le plus vite possible se débrouiller sur place. Bon, à part cela, nous faisons aussi des petites discussions qui ne sont pas toutes en espagnol parce qu'on ne pourrait pas, sur les aspects culturels, historiques, artistiques et gastronomiques, j'insiste là-dessus, qui concernent donc le monde hispanique, en particulier l'Espagne bien sûr, mais pas uniquement. Nous élargirons à l'Amérique du Sud pour les faux débutants. Mais pour les nouveaux débutants, vous pouvez venir en toute confiance. L'espagnol est une langue d'un abord assez facile. Hein, et donc, je pense que ceux qui ont débuté avec moi l'année dernière, enfin, celles qui ont débuté avec moi l'année dernière, voilà, jetez-moi des tomates si je dis des mensonges.
Non, il y a des témoins, il y a des élèves là dans la salle. Voilà. Bien, merci Monsieur Romero. Alors, je vous présente Madame Liranglu, qui est une nouvelle enseignante à l'UTB, parce que Madame Xiaong Poré, qui était notre enseignante, eh bien, a quitté la région, puisque son époux a changé de travail et il est parti en Normandie. Donc, elle suit son mari, comme toutes les Chinoises. Bof. On a eu la chance de rencontrer Madame Liranglu, qui fait également des cours dans les lycées sur Chalon, comme le faisait ma...
Dans l'école primaire.
Dont le mari travaille à Chalon, et elle aussi, puisqu'elle fait des choses à Chalon. Et donc, elle va vous expliquer ce qu'elle vous propose de faire. Donc, on ne veut pas redire l'histoire du débutant. Hein. On le met en mode commun, c'est-à-dire on a la formule pour pouvoir rentrer dans le système. Et c'est particulièrement vrai pour le chinois, puisque le niveau du groupe actuel qui est là depuis 10 ans, il a atteint, même si le chinois c'est une langue qui est difficile, tout le monde peut l'imaginer, il a atteint un niveau tel que, alors là c'est absolument impossible pour quelqu'un qui est débutant de s'intégrer dans le groupe, hein. Donc c'est un petit peu le chinois qui a été le déclencheur de la démarche qui nous a conduit à proposer ce système là. Donc je vous laisse la parole.
Bonjour à tout le monde, enchantée déjà. Je suis contente de venir ici par l'acceptation de Monsieur Fournier. Alors, moi je suis chinoise, je suis venue en France depuis 2005. J'ai fait mes études en France, à Aix-en-Provence, dans les domaines de langue. Et j'ai fait surtout didactique des langues. J'ai écrit un rapport surtout pour apprendre mandarin oral, parce que, comme on dit, voilà, c'est vraiment du chinois, voilà. Là. Peut-être parmi vous, il y a déjà des groupes intermédiaires. Eux, vraiment, ils ont un niveau un peu avancé. C'est-à-dire, ils connaissent déjà pas mal de choses, mais un peu faibles dans la conversation. Avec moi, je pense que je vais surtout vous présenter comment on fait pour les débutants. Voilà, c'est 5 séances de 1h30. Avec moi, c'est surtout, je voudrais développer des conversations et aussi un peu d'écriture. L'écriture, ça peut être la calligraphie, mais pour les 5 débuts de séance, on ne va pas faire la calligraphie parce que c'est un peu difficile et puis avec les pinceaux, c'est un peu voilà, pas très à l'aise. Mais après, si vous voulez continuer, voilà, avec plaisir, si vous me dites ça m'intéresse, je voudrais bien le faire, ben, on peut le faire. Alors, pour ces 5 séances, j'ai pensé faire... on va suivre une méthode de français, chinois utilisée en France, qu'on a déjà utilisée à UTP pour l'autre groupe. En plus, on va ajouter surtout des actes de parole, par exemple, comment demande son chemin, comment se présenter. Voilà, plein de choses. Enfin, pour 5 séances, on ne peut pas faire grand-chose, mais j'espère que si ça vous intéresse, vous venez et puis on continuera ensemble pour discuter la suite, comment on fait. Et moi, je suis comme ça, je suis ouverte. J'espère à chaque fois, vous pouvez me dire, oui, ça me va, ça ne me va pas. Voilà, comme ça, je vais recouper les avis de tout le monde et puis pour faire avancer le groupe. Dans les 5 séances, surtout, on pourrait aussi découvrir la culture chinoise, surtout, par exemple, les fêtes chinoises, si ça vous intéresse, fêtes Nouvel An chinois. Comment on fait, par exemple, comme je fais des ateliers culturels pour les enfants à l'école, enfin, aux écoles de Chalon. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quels événements ça pourrait être, par exemple, pourquoi on fête Nouvel An chinois, pas Noël, enfin tout ça, c'est, voilà, c'est à voir et puis discuter avec vous. Et après, pardon. Alors sur ces 5 séances aussi, on va vraiment découvrir les bases de la langue chinoise, alors surtout mandarin. Parce qu'en Chine, comme vous savez, il y a plein de langues, mais c'est le mandarin qui nous intéresse. On va apprendre surtout le ton. Le ton, c'est un peu comme le rythme pour indiquer voilà, comment on prononce et tout ça. Et le pinyin, c'est la prononciation. Et après, l'écriture chinoise surtout. Voilà. Je pense que ça sera tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci. Ça veut dire merci en chinois.
Si vous avez des questions. Peut-être que je parle un peu vite.
Mais, merci beaucoup. Merci. Merci. Italien, donc j'excuse Madame Godichon qui est absente aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe, des groupes italiens qui sont ici qui veut témoigner? Vous voulez témoigner? Non, je ne vous demande pas de parler en italien. Donc l'italien a beaucoup de succès. Madame Godichon est un excellent professeur. Donc on aura le même système d'italien pour débutants. On l'a vu, c'est pas... Comment ? Oui, mais si vous voulez vraiment un système débutant ou qui coûte pas trop cher, parce qu'il y a aussi la barrière du prix, si vous voulez. Donc, ne pas s'engager dans un investissement plus important si on voit qu'on n'arrive pas à suivre, si vous voulez. Donc, voilà. Alors, là, vous prenez des notes, vous pouvez prendre des notes. Cette présentation, bien sûr, sera sur le site. Et tous les tarifs, les horaires, les salles, les lieux, j'en fais pas les égesses parce que tout est marqué sur ces planches, hein. Alors, voilà. Alors, ensuite, je reviens en arrière, excusez-moi, hein, sur des ateliers, alors je reviens, voilà. L'informatique. Alors, l'informatique, on a eu beaucoup d'ateliers d'informatique au début des années, entre 2005 et 2010, parce que tout le monde s'équipait, et c'était un petit peu normal qu'il y avait une très forte demande. Cette demande, elle a beaucoup baissé pour deux raisons. D'abord, les gens sont plus habiles, Et deuxièmement, les machines sont quand même plus conviviales qu'elles ne pouvaient l'être il y a une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, la clientèle potentielle, on le voit, c'est entre 10 et 20 personnes sur l'année. Et les besoins sont extrêmement divers. C'est du débutant-débutant, ou alors c'est vraiment une thématique particulière. Donc on peut faire des groupes plus petits et qui sont dédiés, si vous voulez, à une problématique particulière de telle ou telle personne. Et il y a aussi une nouveauté, c'est que de plus en plus de gens s'équipent de PC portables. Et donc on demande de venir avec leur propre machine. On a un équipement, et on fait ça dans nos salles à l'UTB, on a un équipement qui permet de se raccorder avec les machines des élèves et d'être raccordé sur Internet, si vous voulez. Donc c'est plus facile pour les gens, plutôt que d'aller dans les salles d'informatique des lycées ou de l'IUT, où ce n'est pas la même machine, c'est pas le même système d'exploitation, simplement les gens sont un peu dépaysés par rapport à ce qu'ils voient sur leur propre machine. Donc on a fait cette évolution-là. Alors pour introduire, si vous voulez, et identifier ce que l'on peut proposer aux gens, je fais une conférence un peu de méthodologie, parce que mon expérience personnelle d'informatique a montré que, au-delà de savoir utiliser les logiciels et de régler sa machine, les gens n'ont pas de méthode de travail. Et ils sont complètement perdus, et surtout s'ils font beaucoup de choses, au bout d'un certain nombre de mois, sinon d'années, c'est un vrai bazar dans leur machine. Donc, je peux donner des éléments de méthodologie que j'ai appris sur le tas, si vous voulez, et qui n'existe pas dans les bouquins. C'est ça qui est extraordinaire. C'est comme si, avec un dictionnaire Larousse, vous n'apprenez pas à faire une rédaction. Ça, c'est bien clair. Les livres d'informatique, c'est des dictionnaires, mais ce n'est pas des livres de méthode. Alors, le processus est le suivant. Je fais une séance de la petite conférence dont j'ai parlé, j'ai fait ça l'année dernière, début novembre. Les gens qui sont intéressés par l'informatique se sont déjà inscrits, sans bien savoir dans quel groupe on pouvait se mettre. À l'issue de cet exposé, on a une discussion avec les gens qui sont dans la salle et on essaye de faire des regroupements par thématique et après on sollicite des élèves de l'IUT pour venir faire l'animation des ateliers. Voilà comment ça fonctionne. Alors ensuite, voilà, atelier Wikipédia. Alors, qui ne sait pas ce qu'est Wikipédia? Il n'y a pas de honte à lever le doigt. Tout le monde sait ce que c'est que Wikipédia, non? Alors, je vais le dire, puisque je vois que vous êtes timide. Wikipédia, c'est ce qu'on appelle l'encyclopédie en ligne. C'est-à-dire sur Internet, c'est un site qui s'appelle Wikipédia, qui est une encyclopédie dont le volume au niveau du nombre d'articles est 10 000 fois l'Encyclopédia Universalis. C'est absolument gigantesque. Et c'est une encyclopédie qui est faite par les internautes, d'une façon bénévole, selon des modalités pratiques. Et mon expérience de Wikipédia a montré que si on apprenait seul, on était vite perdu dans les méandres du système. Parce que vous savez que, vous ne savez pas, mais ceux qui connaissent Wikipédia, on peut faire des modifications sur toutes les fiches Wikipédia, parce qu'on a une information, d'abord, on considère qu'il y a une information qui est fausse, donc on la corrige, ou alors on donne une information complémentaire, sourcée, c'est toujours sourcée, c'est-à-dire, et on met la source dans la fiche. Ça, c'est facile à dire comme ça du haut de ma chair. C'est quand même un petit peu plus compliqué à faire qu'en le disant comme ça en une phrase. Et donc, j'ai pris conscience que une façon, un petit peu comme les ateliers de littérature ou d'éthique et société, comme on l'a dit, le fait de travailler à plusieurs, à trois ou quatre avec l'équipement dont on dispose à l'UTB, c'est-à-dire de venir avec chacun avec un portable et de partager les expériences pour modifier des fiches ou créer des fiches. Et ce qui nous a fait rentrer là-dedans, c'est le fait de créer des fiches qui étaient liées à des ouvrages qu'on a écrits. Vous savez qu'on fait des ouvrages d'histoire locale, et on a découvert qu'il n'y avait pas de fiches qui parlaient des sujets dont on parlait. Donc on a créé des fiches, et on a appris à créer des fiches. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous vous inscrivez, c'est gratuit, et on fait une séance par mois. Alors, on travaille beaucoup à la maison, si vous voulez, mais la séance commune, c'est fait pour se croiser les expériences et dire, bah, tiens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et comme Wikipédia, ça change tout le temps, au niveau des méthodes informatiques, par exemple, pour faire référencer un ouvrage, encore l'année dernière, ça s'est sophistiqué, et des choses qu'on avait faites il y a 2 ans, eh bien, il a fallu les reprendre parce que ça passait plus. Hein, voilà. Donc c'est moi qui anime cet atelier. Informatique, j'en ai parlé. Atelier d'art plastique, je reviendrai à la fin. Donc la dictée. Alors la dictée, c'est Liliane Douté qui s'occupe de la dictée. Liliane Douté, il lui est arrivé un accident la semaine dernière. Elle s'est cassée la jambe, tibia péroné, il y a exactement 1 semaine dans la cour de la mairie. Elle a raté une marche et donc elle est chez elle. Avec un déambulateur et la dictée commence début octobre. Alors on s'est beaucoup concerté avec elle et donc on a convenu qu'on va démarrer la dictée, donc inscrivez-vous à la dictée comme les années précédentes. La dictée va se faire, elle va être faite à tour de rôle par un des membres du groupe. Il y a déjà 2 personnes qui sont proposées pour faire la dictée, c'est-à-dire dicter et faire les commentaires. Toute la préparation est faite, c'est-à-dire les textes sont prêts, et donc elle en a 3 déjà toutes faites, ça va se faire en concertation avec elle. Elle est désolée, mais évidemment ça c'est un cas de force majeure, et en ayant un accident à la jambe, donc vous savez qu'on n'a pas d'ascenseur au site Saint-Georges, donc elle a dit bah oui, début novembre maintenant je vais courir comme un lapin. Je lui ai dit mon œil, on faut pas spéculer sur la vitesse de récupération, et donc on démarre tout de suite, et bien dès qu'elle sera en état de pouvoir nous rejoindre, bien sûr elle le fera puisque c'est sa passion, hein, et je pense que tout le monde apprécie le travail qu'elle fait, qu'elle a amélioré d'ailleurs d'année en année, puisque maintenant elle va au-delà de la dictée proprement dite, puisque je rappelle le principe de la dictée, c'est une dictée, il n'y a pas de notes, mais il y a un corrigé de la dictée. Et elle met en exergue les difficultés soit orthographiques, soit grammaticales, et elle les explique à chaque fois. Et puis il y a un deuxième volet qu'elle a rajouté après, c'est-à-dire, un petit peu comme on fait au groupe littérature et lecture, c'est-à-dire une étude, le texte a été tiré d'une œuvre d'un auteur, donc des petits mots sur l'auteur et des petits mots sur l'œuvre, quoi. Donc ça fait un complément, ça va au-delà vraiment de la dictée pure et dure. Voilà. Alors il y a que des dames, sauf un homme qui est là, et voilà un homme qui participe à la dictée. Alors la parité n'est pas respectée, hein. Et donc, alors je l'avais sollicité pour qu'il fasse la dictée, mais malheureusement, il a aussi des contraintes de rendez-vous médicaux qui, juste le jour de la dictée, qui font que ben il peut pas assumer non plus cette dictée. Mais bon, tout ça va s'arranger. Donc, inscrivez-vous à la dictée, ça marche très bien, et ça se passe au site Saint-Georges. Même dans la grande salle, c'est bien plein, hein, et voilà. Alors, le groupe lecture, Madame Coffin. Vous parlez bien dans le micro directement, parce que vous avez une petite voix.
Merci.
Hein, vous parlez bien dans le micro comme ça, près de la bouche.
Hein? Oui. Alors, au groupe lecture, nous étudions en général des écrivains du 20e et du 21e siècle. Cette année, nous lirons Sándor Márai, qui est un auteur hongrois. Tracy Chevalier, qui est américaine, Jordi Soler, qui est mexicain, Alain Mabankou, qui est franco-congolais, et Laurent Mauvignier, qui est français. Notre première séance sera consacrée à nos lectures de vacances et aura lieu au mois d'octobre. En janvier, nous nous retrouverons autour des prix littéraires de 2017. Et le mois de mars sera consacré au printemps des poètes. Alors, la personne qui a choisi l'auteur nous expose sa biographie et les autres participants auront lu l'un ou l'autre ouvrage de cet auteur et un dialogue se fait donc autour de la table. Le groupe lecture se réunit le troisième jeudi du mois, d'octobre à mai, le matin de 9h30 à 11h45, sauf pendant les vacances, au site Saint-Georges, 30 rue Saint-Georges à Chalon-sur-Saône. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Également pour les... Vous ne l'avez pas dit, mais je vais le dire. Bien sûr, il y a une œuvre qui sert de support à la discussion, mais également, évidemment, si l'œuvre est très abondante, on évoque les autres œuvres du même auteur. Et peut-être les participants disent « moi, j'ai lu tel autre bouquin qui est comme ci, qui est comme ça, voilà, et ceci et cela voilà. ». Et alors, le groupe littérature, Madame Pio n'est pas là, mais elle avait délégué quelqu'un pour pour faire le petit discours. Merci.
Bonjour à tous. Donc, Françoise Pio m'a chargée de vous présenter rapidement le groupe lecture. Alors, pour venir au groupe lecture, il ne faut...
Littérature.
Littérature. Il ne faut aucune compétence particulière, pas du tout être spécialiste en littérature. Simplement, il faut aimer lire et puis fréquenter les beaux textes, comme nous le faisons plusieurs mois. Nous sommes un groupe environ d'une quinzaine, en majorité aussi féminine. Donc, comme disait monsieur tout à l'heure, la parité n'est pas respectée, donc nous faisons appel aux messieurs. Et chaque mois de mai, nous choisissons donc le programme pour la saison future, en essayant de mêler tous les genres, c'est-à-dire romans, qu'ils soient français ou étrangers, théâtre, poésie, récits courts, contes ou nouvelles. Notre groupe se réunit le premier lundi de chaque mois dans l'espace de la Saint-Georges, dans rue Saint-Georges, 30 rue Saint-Georges, nous avons une belle salle. Et la rencontre commence à 14h15 et se termine environ 2 heures plus tard. Alors, que faisons-nous pendant ces rencontres? Un des participants ou une des participants du groupe a choisi, donc elle est volontaire, a choisi une œuvre qu'elle va présenter d'une façon approfondie. Tout le monde a lu l'œuvre, donc après la présentation, qui dure une heure et quart, il y a un échange entre tous les participants, donc une critique, des commentaires qui sont faits. Donc vous pouvez venir, vous voyez, au groupe littérature sans avoir à présenter une œuvre, puisque chacun est volontaire. Pour cette prochaine saison, je vais vous dire donc les œuvres.
C'est marqué ici. C'est marqué ici. Vous pouvez les lire.
Voilà. Donc la première est le 2 octobre. Et c'est avec les frères Grimm et leur célèbre conte. Donc c'est pas la peine que je.
Oui, non, je pense que tout est inscrit ici. Voilà, donc c'est pas la peine de le relire. Hein. Mais ce que l'on voit ici, c'est la variété des genres. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu la différence par rapport au groupe lecture, qui est plus centré sur le roman en général, et du XXe siècle, quoi. XXe, XXIe siècle.
La présentation est tout à fait différente.
Voilà.
Voilà, donc je vous dis peut-être à bientôt, au 2 octobre.
Voilà, merci beaucoup. le groupe Patrimoine écrit de Bourgogne, mais je vois que Jean-Pierre Daillou, il est parti. Donc, il n'y a personne du groupe Patrimoine ici. Donc, c'est Françoise Raslovlev, Françoise Novarina qui anime ce groupe. Je rappelle, vous la connaissez tous, c'est la présidente de l'association Abigail Mathieu, hein. Et donc, elle est au bureau de l'UTB depuis qu'elle est à l'UTB. Et elle a repris ce groupe avec beaucoup de brio et de d'enthousiasme. Et donc, qu'est-ce que l'on fait ici? Ben, on rédige des ouvrages. Alors, il y a deux motivations. Soit on exhume des ouvrages oubliés des siècles passés, écrits par un bourguignon, sur des sujets qui ont attrait à la Bourgogne. Soit on prend un bourguignon, célèbre ou moins célèbre, et qui a écrit, comme le titre du groupe le dit, et on fait une monographie autour de ce personnage. Alors, l'avant-dernier qu'on a fait, qui est sorti il y a 2 ans, c'était Lazare Carnot, qui est devenu célèbre au moment de la Révolution, qui était au comité de salut public, mais on a montré dans l'ouvrage qui est sorti les facettes multiples du personnage. Et donc, le suivant, c'est celui qui est en cours de finition, c'est le comte de Rambuteau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le comte de Rambuteau, c'était le préfet de la Seine, c'est le prédécesseur du préfet Haussmann à Paris. Et d'ailleurs, à Paris, si vous connaissez, il y a une rue Rambuteau. Et en fait, le début des grands percements des avenues à Paris, c'est Rambuteau qui a commencé, et c'est Haussmann qui a continué pendant le Second Empire. Alors, ce comte de Rambuteau, il a deux caractéristiques. Il est né à Mâcon, donc il est bourguignon. Et deuxièmement, jamais, il n'y a aucun ouvrage sur le comte de Rambuteau. Ça n'existe pas. Donc, on sera les premiers à faire... Et on est en contact avec la famille, les descendants directs du comte de Rambuteau, qui ont un château dans la région mâconnaise, et donc qui viendront. Et donc, ce bouquin est prévu de sortir début décembre. Et donc, il y aura une conférence qui... la présentation du bouquin et qui en fera le résumé. Voilà. Alors, donc, on est à la fin d'un cycle sur le bouquin. Et donc, si ça vous intéresse, donc, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ça? C'est, faut être un peu comme dans le groupe écriture, aimer écrire, mais surtout aimer faire des recherches historiques. Et donc, en particulier sur cet ouvrage-là, Madame Monique Roux et Madame Geneviève Guérin, nos deux conférencières d'histoire, ont accepté de participer à la rédaction de cet ouvrage. Ah, donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez intégrer le groupe. Et je pense que dans les semaines qui viennent, le thème de l'ouvrage suivant va être défini, si vous voulez. Voilà. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, donc je le laisse sonner. Groupe économie et géopolitique. Alors, c'est un groupe que j'avais initié il y a une dizaine d'années. Donc, c'est un peu la même formule que les groupes littérature, si vous voulez. Mais le thème, ça n'est pas des ouvrages ou des romans. Ce sont soit des ouvrages d'économie, soit des articles de journaux sur un thème économique. Et donc, on discute, et c'est le même principe que le groupe éthique. On sélectionne des ouvrages et on les commente en petits groupes. Donc, jusqu'à présent, j'essayais d'animer ça, mais j'anime beaucoup de choses. Donc, j'ai délégué cette fonction à Denis Maillard, qui était un des piliers de ce groupe. Denis Maillard, c'est notre vérificateur au compte, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous vous inscrivez. Groupe éthique et société, on en a parlé. La marche, alors. Donc, le responsable de la marche, qui était Monsieur Jean-Pierre Gros, a souhaité passer la main. Et donc, c'est Monsieur Gallet, qui faisait déjà partie de l'équipe, qui a accepté de prendre sa suite puisque la marche, il ne suffit pas que de marcher. Il faut faire les reconnaissances. Il va vous expliquer tout ça. Voilà.
Bonjour. Après une offre aussi large pour votre santé de l'esprit, on va parler 2 minutes des possibilités pour soigner aussi un petit peu le physique. Donc, le groupe Marche organise deux fois par mois des randonnées en boucle dans la région chalonnaise, plus précisément le second et le quatrième lundi de chaque mois, à laquelle vous êtes conviés. Ces randonnées sont effectuées sur des circuits qui ont été préalablement reconnus par un petit groupe et qui sont choisis pour l'intérêt des paysages et ce que l'on peut trouver en chemin, les chapelles, les lavoirs, enfin tout ce que vous connaissez tous dans cette belle Bourgogne. Les distances parcourues vont de 10 à 14 km et les dénivelés positifs de quelques mètres, si on va en Bresse, jusqu'à à peu près 400 mètres, ce qui nous amène dans les convocations et également dans les bulletins, je crois, à classifier chaque randonnée en facile, moyenne ou difficile avec un petit système de croix. Pour participer, il faut, je pense que M. Fournier le redira pour l'ensemble des informations, il faut remplir le petit bulletin. Et une petite particularité sur ce groupe Marche, il faut en complément apporter un certificat médical d'aptitude à une marche de 14 km ou 15 km faite par votre médecin et également payer une fois pour toute l'année 3 euros qui correspond à la souscription d'une assurance spécifique à cette activité, assurance tout autant couvrant la responsabilité civile des organisateurs et de l'UTB, mais également une assurance personnelle au cas où il vous arriverait un accident. L'équipement personnel indispensable, il tombe un petit peu sous le sens, des bonnes chaussures de marche, un petit sac à dos pour emmener à boire, indispensable, et un petit tanka sur le chemin, un imperméable, parce qu'il arrive aussi que ça soit nécessaire, et puis nous recommandons fortement l'usage de bâtons, particulièrement les jours où il a plu et où le terrain est un petit peu glissant. Alors, pour se rendre sur place, en général, enfin pas en général, toujours, les rendez-vous sont fixés à 13h30 sur le lieu de départ de la randonnée, à 13h30, pour que la randonnée parte à 13h30. La plupart des personnes viennent avec leur véhicule personnel. Certaines personnes qui se connaissent bien se regroupent à 2, 3, 4 dans une voiture. Et puis, il y a également, en venant aux premières randonnées, la possibilité de parler avec les uns et les autres pour s'organiser en covoiturage. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour.
C'est bien.
Il y a quelque chose, non?
Bien, merci. Alors, donc, on a acquis il y a 2 ans un GPS de randonnée qui aide. Il faut dire que vous allez communiquer les cartes et les parcours.
Oui, alors, vous avez dans chaque bulletin les prévisions, enfin les
circuits qui sont
les faits. Circuits qui seront faits pour le mois suivant. Et 3 jours avant la randonnée, vous recevez, 3 ou 4 jours avant la randonnée, vous recevez par mail l'invitation, le lieu, la carte précisant le lieu exact de rendez-vous et, quand ça a été possible, une petite photo ou deux pour vous inciter à venir. Voilà. Donc vous recevez ça quelques jours avant. Seulement quelques jours avant, parce que quand on fait une randonnée un lundi, ça veut dire que le groupe de reconnaissance a fait la reconnaissance le lundi précédent. Et le lundi précédent, on peut être amené à faire des petites modifications pour quelques raisons que ce soit.
Voilà, merci. Alors, on va terminer par les voyages culturels. Donc, nous faisons, nous organisons des voyages culturels, des longs, des courts et des moyens. Alors, voilà les prévisionnels pour l'année prochaine. Voilà les voyages longs, on va dire. Hein. Voyage au Brésil, il est bouclé. On va partir le fin novembre et on vient début décembre, donc une douzaine de jours. On a un projet de voyage en Iran en 2018 qui est pour le moment hypothétique. En Allemagne du Nord en septembre 2018. À coup sûr, le voyage à Munich, et on a la date exacte, c'est même plus précis que ça, c'est le 12 avril 2018 avec Damien Capelazzi. Hein. et un voyage en Catalogne en début juin avec Annick Spé. Voilà. Voilà les grands voyages et les petits voyages, entre guillemets, les sorties d'une journée. Giannada, le voyage se fait, donc c'est début octobre, le 5 octobre. On ira au monastère de Brou, où on est déjà allé. Alors, oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'une façon générale. Les thèmes de ces voyages sont liés d'une manière ou d'une autre à des thèmes qui ont été développés dans les conférences. Hein. On n'est pas une agence de voyage. On n'a pas le droit d'ailleurs d'être une agence de voyage. Et donc on essaye d'avoir un petit plus par rapport à ce qu'on peut trouver sur les catalogues des voyagistes classiques, si vous voulez. Même quand on passe par une grande agence, en général, le circuit qu'on propose est différent de ce qui est standard dans les catalogues. Ou alors, on a un accompagnateur qui est un de nos conférenciers, enfin le cas typique, c'est Annick Spé, qui donne un plus, si vous voulez. Alors, pourquoi le monastère de Brou? Tout simplement parce qu'on a une conférence sur Gustave Doré, et Gustave Doré, c'est le graveur du 19e siècle, que tout le monde connaît, qui a fait le Chaboté, le Don Quichotte, enfin vous connaissez tous ces gravures extraordinaires, Pantagruel, etc., etc. Et il se trouve que Gustave Doré a vécu dans son adolescence et sa prime jeunesse à Bourg. Et il y a des originaux qu'on va nous sortir pour voir des gravures de Gustave Doré originales. Des tirages originaux, hein, mais qui ne sont pas exposés parce qu'on ne peut pas exposer. La surface des murs du musée n'est pas suffisante pour exposer toute l'œuvre de Gustave Doré. Et il a également son œuvre picturale, puisque vous savez, enfin vous ne savez pas, vous allez venir à la conférence. Gustave Doré était peintre et voulait être connu comme peintre, et on l'a. Il a été détesté comme peintre, pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il était au contraire très bon, mais il gagnait de l'argent avec quelque chose qui n'était pas de la peinture, qui était un crime, disons, contre l'art, parce qu'un artiste qui gagne de l'argent de son vivant, c'est au 19e siècle, ça se faisait pas, quoi. Voilà. Donc on ira visiter l'Académie François Bourdon du Creusot, qui est la structure associative qui a rassemblé toutes les archives Schneider. Et on aura une conférence sur la création de cette association. On va aller visiter le Sénat, puisqu'on a la chance d'avoir un sénateur qui est une sénatrice, qui est Marie Mercier, qui est la maire de Châtenois-le-Royal, qui a accepté de nous faire une conférence sur le rôle du Sénat. En complément, on aura une visite au Sénat. Le musée du parfum, avec associé également une conférence sur l'histoire du parfum. On ira à Salins et à Arquesnan, même si vous y êtes déjà allé, parce qu'on a deux conférences sur l'histoire du sel. Hein. Donc, on ira voir une installation de verre à vitre qui s'appelle le flot de glace à Salaise-sur-Sanne, c'est dans l'Isère. Hein. Donc ça, c'est du tourisme industriel. Et Madame Petrini-Poli qui nous fait une conférence sur les vitraux des églises en Saône-et-Loire, eh bien, elle complétera bien sûr par un petit circuit, comme elle l'a fait déjà cette année là avec les croix de chemin. Donc le processus d'inscription, ben, ça se passe comme c'est indiqué là-dessus. Alors. Ça devient de plus en plus difficile de faire des voyages, tout simplement parce que les gens s'inscrivent à la dernière minute. Et pour savoir si on peut faire un voyage, il faut qu'on sache suffisamment à l'avance le nombre de personnes qui sont susceptibles de le faire. Alors c'est deux contraintes totalement contradictoires qui font que on est toujours un petit peu stressé pour lancer un voyage. C'est pour ça que au moment de l'inscription, surtout pour les nouveaux, même pour les anciens, on a un petit sondage pour dire ben, est-ce que vous êtes intéressé par nos projets de voyage. S'il n'y a aucune croix dans les colonnes, on ne veut pas se fatiguer à essayer de concevoir le voyage. Par contre, s'il y a beaucoup de croix, ben là, on est motivé, même si ça n'est pas un engagement pour s'inscrire sur le voyage, mais c'est une probabilité forte que le voyage puisse se faire. Puisqu'évidemment, on calcule le prix en fonction d'un nombre de personnes minimal. Et en particulier pour les longs voyages, le cas du Brésil, ça va se passer fin novembre, on a fait les inscriptions au mois de janvier de cette année, hein, pour pouvoir réserver les places d'avion, les choses comme ça. Hein. Alors, quelques petites choses supplémentaires. Des cafés-débats, on en faisait plus avant, donc là, on va plutôt, on les limite à des choses qui vraiment s'y prêtent au niveau des, au niveau du thème. On en a au moins un d'identifié dans l'année qui vient. Je vais vous faire une conférence sur le développement de la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on a la chance, trois jours après, d'avoir l'amiral Koldefi qui va nous faire une conférence sur la défense nationale et bon, qui est un expert de stratégie. Et on aura également un physicien, M. Jacques Fauss, qui nous fera une conférence sur la fission avant et qui participera à une conférence débat sur le fait que la bombe a existé et qu'elle existe aujourd'hui. On en parle encore tous les jours à la télé. Qu'est-ce que ça a changé dans, évidemment, ça a changé un peu la face du monde. En bien et en mal, comme on peut le dire, mais enfin bon, c'est une réalité. Donc c'est un bon sujet. Par contre, c'est réservé à des gens qui s'inscrivent préalablement, parce que là, il y a un travail préalable, c'est qu'on va distribuer des polycopiés de discours et de textes qui sont un support à la discussion. Alors, inscription aux activités. Oui. Oui. Alors, c'est un café philo. Voilà, oui, j'allais oublier ça. Mais, Michel. Donc, on fait aussi, une fois par an, un café philo. Donc, c'est la formule du café débat. Et donc, le thème, j'ai déjà oublié. Donc, c'est « Est-ce que la science a des racines chrétiennes ?» Hein, voilà. Et donc, il y a Monsieur Jean-Marie Vigoureux qui va nous faire une conférence sur Marie Curie, alors la biographie de Marie Curie, c'est-à-dire on va aller au-delà de son truc, enfin de ses découvertes scientifiques, parce qu'on a déjà eu une conférence sur son œuvre scientifique, mais Marie Curie, c'est beaucoup plus que le radium et le polonium, hein. C'est vraiment une femme vraiment exceptionnelle à tout point de vue. Et donc il nous en parlera, et je crois que tout à fait dans la foulée, on va essayer d'organiser ce café débat, parce que ce sera en connexion directe avec, c'est bien de le faire relativement proche, si vous voulez, de la conférence support, hein, voilà.
D'autant que c'est à partir d'un texte de monsieur,
voilà. Le problème a été posé. Voilà. Alors, j'ai rajouté ça, donc je le dis bien, et on va le pilonner par tous les moyens de communication possibles et imaginables, et c'est pas facile. Donc, je le dis surtout pour les nouveaux, dans le bulletin que vous allez recevoir à la fin de l'année, ou à la fin du mois, ou alors que vous allez télécharger à la fin du mois, c'est-à-dire entre le 28 et le 30 septembre, il y a beaucoup de choses, et en particulier des pages d'inscription qui ont cet aspect-là. Alors, ici, vous n'y voyez rien. Alors, on a fait un petit zoom sur une de ces bandes. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous le téléchargez ou quand vous le recevez par la poste, si vous avez la formule par la poste? Eh bien, vous, sur le papier, vous découpez avec des ciseaux la bande des ateliers qui vous intéressent. Sur la gauche, il y a la description de la nature de l'atelier et le tarif, et les horaires, et sur la droite, il y a, on va dire, c'est le bulletin d'inscription. Pourquoi on fait ça? Tout simplement que, parce qu'on est inondé de coups de fil, de gens qui passent à la sauvette et tout, et il faut que pour les dames de l'accueil, et en particulier in fine Muriel, elle ait une trace écrite des inscriptions réelles, et qu'elle puisse faire un rapprochement entre ces petits papillons d'inscription et les chèques qu'on va lui donner. Parce que les gens s'inscrivent et puis quelques-uns oublient un peu de payer. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, j'avais pas mon carnet de chèques, etc. Bon, hein. Donc, ça permet d'assurer une traçabilité, si vous voulez, de la comptabilité, surtout avec le nombre d'ateliers dont on s'occupe. C'est très difficile à suivre si on n'a pas ce système-là. Alors, faites l'effort. Donc, vous le trouverez dans le bulletin mensuel. Je vais même faire un téléchargement spécial de, disons, page à page, où il n'y a pas tout le reste du texte, il n'y aura que les formulaires d'inscription aux ateliers, de telle manière qu'on puisse y avoir accès le plus facilement possible. Et ensuite, soit vous venez avec votre chèque et vous passez au bureau et vous faites les formalités, soit vous l'envoyez par la poste, comme on vous fait, beaucoup de gens le font pour l'inscription à l'UTB. Et comme ça, ça permet de gérer correctement ce processus d'inscription. Voilà, et donc je crois qu'on a fait le tour de la présentation. Oui, des questions, oui. Oui, oui, j'ai zappé. Madame Chaud n'a pas pu venir aujourd'hui, donc il y a bien un atelier d'art plastique selon les modalités habituelles. Je vais le retrouver. Voilà. Donc, c'est comme les années précédentes. Donc, voilà. Donc, alors, si vous voulez voir ce que fait le, parce qu'elle n'a pas pu venir, donc sur le site, il y a des exemples de réalisation d'élèves de Madame Chaud qui ont fait des choses pas mal du tout. C'est des copies de il n'y a pas besoin de talent particulier, mais voilà. Ah ben tiens, je vois que notre madame sud-africaine est venue à mon exposé parce que je n'avais pas repéré. Levez-vous s'il vous plaît. Vous dites votre nom. En français. Ah, madame Benita Basson est sud-africaine. Et donc... Son mari travaille, est en détachement ici sur des activités chez Areva à Saint-Marcel. Et donc, on s'est rencontrés sur le forum des associations. Et effectivement, au début, j'avais pas identifié l'histoire de l'anglais, si vous voulez, mais c'est en parlant de nucléaire que j'ai fait, puisque tout le monde sait que j'ai travaillé dans le nucléaire, que j'ai fait le rapprochement, et je dis, bien sûr, mais il faut venir, absolument. Donc, c'est Monsieur Pagnon, c'est avec lui qu'il faut vous rapprocher pour, disons, venir participer au groupe de conversation anglaise. Donc, je reviens à la conclusion là des ateliers. Donc, vous voyez que nous faisons beaucoup d'activités complémentaires. L'expérience montre que les gens qui y participent apprécient beaucoup ces ateliers. Parce qu'en fait, c'est un lien social. Les groupes sont petits. Les gens se rencontrent, se connaissent. Il y a une camaraderie qui se met en place. Les gens font des sorties, des soirées. Donc, c'est de l'auto-organisation, si vous voulez. Et en cumul de toutes ces activités, ça représente plus de 100 ou 150 personnes par rapport aux 700 adhérents que nous sommes. Donc, la vision qu'on peut avoir au premier degré de l'UTB, c'est des conférences, point barre. Non, c'est des conférences et beaucoup de choses à côté et qui ne sont pas dans une logique scolaire, qui sont dans une logique vraiment interactive, participative, et ce qui fait que les gens, si ça ne marchait pas, les gens disparaîtraient d'une année sur l'autre, mais on s'aperçoit que les groupes sont stables, et bon, il y a une personne qui part et deux qui reviennent, si vous voulez. Donc c'est le témoignage de l'intérêt de la participation à ces ateliers. Voilà. Oui. Alors l'atelier de généalogie, celui qui l'avait fait l'an dernier, il veut plus le faire parce qu'il a d'autres projets. Donc, on n'a pas. Si vous avez quelqu'un qui veut bien s'en occuper, on veut bien faire de la généalogie. Mais à la généalogie, si vous voulez, c'est Michel Offrand. Il était là tout à l'heure. Là, il est parti. Jean-Paul Offrand. Il est parti et donc il m'a dit. Puis il a aussi quelques problèmes de santé. Et il a dit, je suis le seul à faire de la formation. Et si vous êtes introduit au cercle généalogique de Chalon, j'ai pas eu le temps de faire de la RTAP pour essayer de trouver quelqu'un d'autre, si vous voulez. Et en fait, comme c'est lui qui nous l'avait proposé, il l'a fait. Et on était un peu surpris quand il nous a dit qu'il n'avait pas l'intention de continuer. Quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Pas d'autres questions ? Ben, je vous remercie. Alors, je vais demander à Michel, est-ce que vous pouvez rester un petit peu pour m'aider un peu à ranger le matériel ? Hein ? Au revoir. Pas marqué sur le programme pour le moment, mais ce sera début novembre, ça.
D'accord, mais ça va être précisé.
Oui, ça va être...
Je veux bien m'inscrire, mais si ça...
Non. Le, vous inscrivez après la conférence. Je fais la conférence, et après la conférence, les gens qui sont intéressés par les ateliers d'informatique, je les garde, et puis on essaye de voir ce qu'on peut faire, voilà.
Ça se détache.
Attendez, laissez-moi faire, là. Oui.
Quand vous envoyez le programme, je le reçois en deux fois.